Shalom uvracha, boker tov les koulam, shalom shalom, veine yom sheni. Nous sommes lundi et donc le lundi, eh ben, c'est le shiur sur la tefila et nous arrivons aujourd'hui, cette semaine, à la septième bénédiction, septième bracha, la quatrième bracha des bakashot. Et oui, après avoir parlé de, donc, des trois premières qui sont là pour nous dire quelle est notre relation à Dieu. Ensuite, nous avons demandé date. Ensuite, on a demandé un retour complet vers Akadosh Baruch Hu. Et enfin, qu'il nous pardonne ce qu'on aurait pu faire de mal. Et donc, maintenant, bah, en fait, si tu veux, maintenant, ça commence. Maintenant, ça commence. Parce que tant que j'avais pas demandé de date, de conscience minimum, de savoir, bah, ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin, bah, je pouvais rien demander. Tant que j'avais pas mis en place l'idée que toute mon identité, c'est de revenir vers le Créateur, ben finalement, rien ne valait vraiment le coup d'être mis en place. Et tant que je n'avais pas demandé pardon pour mes erreurs, eh bien, pourquoi est-ce qu'il me donnerait quoi que ce soit si je continue à me moquer de lui? Tu vois, demander quelque chose à quelqu'un alors que tu transgresses tout simplement ce que lui t'a demandé de faire, il n'y a pas de raison qu'il te donne, quoi. Ce matin, pas plus tard que ce matin, mon fils m'a dit, tu peux m'amener à l'anniversaire ce soir, il y a l'anniversaire d'un copain. Sauf que juste avant, je lui ai demandé de m'aider à ranger la cuisine. Et il s'est posé sur le canapé, il n'a rien fait. Je lui ai dit, bah, tu vois, si toi, moi quand je te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas, bah, toi quand tu me demandes de faire un truc, tu ne le fais pas non plus. Donc tu te débrouilles pour aller à ton anniversaire. Non, s'il te plaît. Ah. Donc, on en est là, quoi. Donc, une fois qu'on a demandé pardon, qu'on a fait donc teshuva, mais cette fois, et la teshuva indépendante des fautes, et la teshuva dépendante de mes fautes, alors, je peux commencer à demander à Dieu des trucs. Et c'est quoi les trucs qui m'intéressent là maintenant? Eh bien, c'est parti. Re'ena ve'onienu. Re'ena ve'onienu, on voit notre pauvreté. Mais il ne s'agit pas ici d'une pauvreté au niveau de la parnassa. On aura une bracha entière sur la parnassa. Donc là, il s'agit de quoi? Re'ena ve'onienu ve'riva rivenu. Il semblerait que nous avons une pauvreté qui n'est pas une pauvreté de parnassa, une pauvreté qui est due également à une rive qu'on a. C'est quoi rive? C'est un conflit. Un conflit, mais attention, un conflit qui doit se régler au Beit HaMishpat. So, rive, ce n'est pas un conflit qui doit se régler à l'amiable. Donc, de quoi parlons-nous? Eh bien, lorsqu'on regarde un petit peu dans la Torah, dans le livre de Shemot, eh bien, on va voir que Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « Ra'o ra'iti et oni ami asher b'mitzrayim ». J'ai vu, non pas la pauvreté, comme on a traduit jusqu'à maintenant, mais la souffrance. « Ania v'ta'ania ». Oni, ici, c'est la souffrance, ce n'est pas la pauvreté. La souffrance, et quand on regarde le livre de Shemot, Ra'o ra'iti et oni ami asher b'mitzrayim, c'est-à-dire que c'est une souffrance qui est due à notre réalité bagalout. Eh oui, bagola, bah on souffre. Lorsque Am Israël n'est pas à la maison, il souffre. Il souffre soit de l'éloignement de la maison, les langoumans, les gaagouim, ou il souffre tout simplement parce que les autochtones, eh bien, ne sont pas très sympas avec lui. Et pourquoi ils ne sont pas très sympas avec lui? Eh bien, il y a toujours ce sentiment de rejet par rapport à l'étranger. Je vous renvoie pas au livre de Camus, mais c'est de ça qu'on parle. Lorsque tu mets des barrières et que l'autre devient un étranger devant toi, eh bien, on a toujours un sentiment de rejet par rapport à ce qui est étranger à nous. La gaffe, c'est vrai aussi au niveau corporel, au niveau moléculaire. Enfin, moléculaire, je la pousse peut-être un peu, mais au niveau corporel. C'est-à-dire que lorsque tu as un corps étranger qui rentre dans un corps existant, la première réaction du corps, c'est le rejeter. Et donc, le fait qu'Am Israël soit en tioul chez d'autres populations, eh bien, ça va créer forcément une sensation de rejet. Et ce rejet, ben, on le ressent parce qu'il y a de la persécution. Et je pense que l'histoire a largement prouvé cela. Donc, si vous voulez, Re'ena Be'onienu, c'est notre souffrance qui est inhérente à l'exil. Seulement, le fait d'être en souffrance en exil ne veut pas forcément dire qu'on est maltraité benigud lachok, qu'on est maltraité en contradiction, si vous voulez, avec la loi. Alors, de quelle loi je parle? Je ne parle pas des lois du pays dans lequel on se trouve, parce que ça, c'est à la limite le problème du pays. Je veux dire, s'il y a un pogrom ou s'il y a des attaques antisémites, eh bien, tu vas aller porter plainte à la police. Et normalement, la police va te dire qu'elle va faire tout ce qu'elle peut pour t'aider, et dans les faits, elle ne fera rien du tout, parce qu'elle ne peut rien faire. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, parce qu'on vient de là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, au niveau de la bracha? Qu'est-ce qu'on a à demander ici? Re'ena be'onienu. Et donc, riva rivenu. Il y a, semble-t-il, une loi qui regarde Dieu directement par rapport à notre situation en exil, et loi qu'il doit faire respecter. De quelle loi s'agit-il? Eh bien, lorsque nous partons en exil, Dieu fait prêter trois serments. Fait prêter trois serments, deux au peuple juif et un aux nations. Ce sont les fameux serments, les shalosh vuot, les serments qui sont les garants de la pérennité de l'exil. C'est-à-dire pour que l'exil puisse remplir son rôle d'exil, parce qu'il y a un rôle à l'exil, évidemment, au Baruch HaShem il est terminé aujourd'hui, mais il y a un rôle à l'exil, eh bien, pour que cet exil puisse remplir son rôle, il faut qu'il puisse, eh bien, exister. Et donc, il y a trois serments. C'est quoi ces trois serments? Donc, j'ai dit deux qui concernent le peuple juif. Le premier, que nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations. C'est-à-dire quoi, nous révolter contre les nations? C'est-à-dire que de décider de venir conquérir la terre d'Israël alors que les nations ne sont pas d'accord. Et deuxièmement, nous n'avons pas le droit de revenir en masse, c'est-à-dire armés et prêts à conquérir, justement. C'est l'argument de base de la chassidoute de Satmer qui vient et qui est complètement opposé au sionisme, disant que nous avons transgressé les serments. Donc, il est évident que ces arguments, bien qu'ayant été émis par des grands talmidei chachamim, n'ont aucune base ni dans la halakha, ni dans la metziout, dans la réalité, pour la simple raison que, eh bien, on ne se révolte pas contre les nations, puisque nous avons reçu la permission des nations de revenir ici. Tant en 1917 avec la déclaration Balfour, qu'en 1920 à San Remo lorsque la SDN va signer la déclaration Balfour et donner un mandat à l'Empire britannique pour la réaliser, que dans le vote des Nations Unies de 1947. Donc, il est évident que nous n'avons plus ici de question de nous révolter ou pas nous révolter. Les nations nous ont permis de rentrer, point terminé. Et pour ce qui est de venir conquérir en masse, une fois qu'on a reçu la permission des nations, évidemment qu'on vient conquérir en masse. Donc, il n'y a aucun problème. Et pour ce qui est du troisième, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qu'avait dit exactement Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, le Mesher Chochma, lorsqu'il avait entendu à la radio la déclaration Balfour, il a dit « Maintenant que la peur des serments est tombée, nous ne pouvons plus nous cacher derrière quelques excuses et la mitzvah de revenir habiter en Israël reprend tout son poids. » Le Hafetz Chaim également avait dit, c'est marqué dans le livre Toldot Hafetz Chaim de son fils, que lorsqu'il entend lui aussi parler de la déclaration Balfour, il dit « Dos is dos, ze ou ze ». Ça y est, la Géoula a commencé. Pour ce qui est du troisième serment, eh bien, c'est un serment qui concerne les nations, qui dit « Vous n'avez pas le droit d'asservir le peuple juif trop ». C'est mouzard, mais c'est trop. À partir de où tu mets le curseur qui est trop? Comme si un pogrom oui, un pogrom par là, oui, un pogrom par-ci, ok. Mais la Shoah, vous avez été trop loin. En d'autres termes, il y a une rive, un litige entre le peuple juif et les nations que Dieu doit arbitrer. Et c'est pour cela qu'on vient vers lui dans cette fila et qu'on dirait « Onyenu » parce qu'on est en exil. Mais surtout, on ne lui a pas demandé « Fais en sorte qu'il n'y ait plus de Onyenu » parce qu'on est conscient que lorsqu'on est là-bas, eh ben, il y aura cette Oni, Asher Bemitzrayim. Mais on demande que non seulement tu vois ça, mais que tu vois que c'est disproportionné. Et donc, « Veriva rivenu ». Cette rive que nous avons avec les goyim, c'est à toi de la régler. C'est toi qui as mis en place les règles pour qu'on soit là-bas. C'est à toi de faire régner l'ordre. Donc, veriva, rivenu. Ou gealenu geula shelema meera leman shemecha. Alors, qu'est-ce que cette histoire-là? Geula, c'est geula, l'indépendance nationale. Mais il ne s'agit pas ici de la bracha de la geula, puisque la bracha de la geula arrivera dans Tekab et Shofar Gadol. Donc, quelle est cette geula dont on parle? Eh bien, il s'agit ici de manière beaucoup plus recentré de Geoula Minat Sarot. De Geoula, suite aux problématiques faites à cause de l'exil. Par exemple, on a des Geoulot comme ça qu'on connaît très bien. Geoulat Purim. Geoulat Purim, c'est, on a été attaqué par une puissance, enfin, on a été mis en danger par les Perses. On était en Perse, on a demandé à Dieu qu'il nous aide, et il nous a donné une Geoula Minatsarot. On est resté en exil en Perse, mais on a reçu une libération des problèmes du moment. Il y a eu d'ailleurs plein d'autres Purim dans l'histoire. On a un Purim de Francfort, un Purim d'Algérie, un Purim de je ne sais pas où encore. C'est-à-dire que ce sont des communautés qui ont vu un drame se profiler et qui ont finalement été sauvées de ce dit drame. Et donc, eh bien, ils en ont fait des fêtes pour commémorer le moment. On pourrait parler, par exemple, du minag des Tunisiens de Seudat Yitro. C'est, par exemple, Geoula Minatsarot. Donc ici, on te dit, « Reina va'onienu à cause de l'exil, veriva rivenu » et donc, « Ogealenu Geoula Shelema Minatsarot » Shavlama Mehera. Parce que Geoula, donc on a dit, ça peut être la Geoula ou ça peut être simplement, ici, de nous libérer des problèmes. Mais lorsqu'on parle de Geoula Shlema, Geoula Shlema, c'est pas que Minatsarot, ça fait aussi référence. Référence à quoi? Mais référence à la Geoula. Et donc c'est pour ça qu'on demande qu'elle soit Me'era, rapidement. Quand on parle de Geoula Minatsarot, on demande que ce soit rapide, bah c'est normal parce que tu as mal. Donc comme tu as mal, tu as envie que vite on te donne un Doliprane, une aspirine, comme je n'ai. Mais lorsqu'on parle de The Geoula, de la Geoula Bichlal, de l'histoire, alors il faut que ce soit Me'era, Lama. Eh bien, il faut que ce soit Me'era pour une raison très simple, mais extrêmement puissante. Le Ramchal nous dit dans son livre Ma'amar à Geoula que Dieu gère son monde par l'intermédiaire de deux Anagot, de deux façons de gérer le monde. La première, c'est ce qu'on appelle Memshelet Achalonot. Et l'autre, Memshelet Achahar. Qu'est-ce que c'est? Le gouvernement des fenêtres face au gouvernement de la porte. Nous dit le Ramchal, lorsqu'on est Bedor Shel Geoula, c'est-à-dire indépendant sur notre terre, eh bien, Dieu gère le monde par la porte. C'est-à-dire qu'il ouvre une grande porte qui laisse rentrer une lumière énorme sur le monde. Lorsqu'on est en exil, la porte est fermée et c'est le temps des fenêtres. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière qui rentre, moindre que celle de la grande porte, mais bon, il y a de la lumière, c'est la lumière de la galoute. Bon, le problème, c'est que nous dit le Ramchal que lorsque se termine la galoute, petit à petit, les fenêtres se ferment. La malo. Les fenêtres se ferment et tant que la fenêtre n'est pas fermée, la dernière fenêtre n'est pas fermée, eh bien, la porte ne s'ouvre pas. Il dit le Ramchal, au moment où la dernière fenêtre se ferme, la porte s'ouvre. Mais continue le Ramchal en disant que si dans les cieux, c'est immédiat, au moment où la porte, enfin la dernière fenêtre se ferme, la porte s'ouvre, il dit qu'elle avait la réalisation concrète dans ce monde, prend un peu de temps. C'est un temps qui est court, mais qui représente le plus grand danger pour le peuple juif. Lorsqu'on comprend que bah, la Géoula, la création de l'État d'Israël, eh bien, fait suite, chronologiquement parlant, à la Shoah, eh bien, on comprend ce que dit le Ramchal, que lorsque la dernière fenêtre se ferme, arrive le moment le plus dangereux pour le peuple juif, où il y a une violence absolument inouïe. Effectivement, la Shoah n'a duré que 4 ans, ce n'est pas grand-chose sur l'histoire humaine, et pourtant, ça a créé le drame qu'on connaît. En d'autres termes, le Gaon de Vilna disait que lorsque la Géoula commence, il faut que ce soit Mehera pour très très vite sortir de ce danger-là, de la fin de la fenêtre et du début de la porte. D'ailleurs, il disait, le Gaon de Vilna, que lorsque viendra la Géoula, alors il faudra le plus rapidement possible faire venir 600 000 juifs en Israël, parce que c'est le nombre du peuple juif en Israël. Et il faudra le faire très rapidement, parce que si ce n'est pas fait vite, il aura un drame terrible. Et Rabbi Israël Mishklov, dans son collator, il dit « Ve zalgu dimotav shel rabbenu de ma'ot kshamar lanu zot » que le grand devinat était en train de pleurer lorsqu'il disait ça. Au moment de la Shoah, il y a malheureusement uniquement 400 000 juifs en Israël. Ce n'est qu'au moment de la création de l'État d'Israël qu'il y aura effectivement 600 000 juifs en Israël. Et donc, c'est bien ce qu'on nous dit. « Ve'ga'alenu ge'ula shelema lema'an shemecha » Mazé, lema'an shemecha ? Ah bah oui, lema'an shemecha ! Pourquoi est-ce que Dieu il emmène la Géoula ? Tant des tsarot que la Géoula, Géoula. C'est pas pour nous. C'est pour l'Eman Shemo. On avait dit dans le début de la prière, de la Tvila, quand on disait « Omevi Goel, Livne Benem, l'Eman Shemo ». C'est pas pour nous. C'est pour lui. Parce que tant que Am Israël est Bagalout, c'est son nom, son dévoilement, qui est bafoué, tourné en dérision. Eh oui. Malazot, nous dit le prophète, Kigadol Shemi Bagoim, Vatem Mechalelim Oto. Malka Vesarea Bagoim En Torah, nous dira le Megillat Eicha. Quand on est en exil, c'est Chilul Hashem. En Eicha, plus grand Chilul Hashem que l'exil. Donc le retour en Israël, agave, ben c'est l'inverse, c'est le Kiddush Hashem. Le Ham Israël qui rentre à la maison, il n'y a pas de plus grand Kiddush Hashem que ça. Et donc, c'est le man shemecha, c'est non le mani. Le man shemecha. Qui el goel chazak. Attends. Pourquoi est-ce qu'on a besoin ici de parler de chozka, de force physique? Parce que l'exil a fait de nous des gens qui pensent que la force physique, c'est lo chashuv, que notre seul espoir est dans notre tfila, que notre seule histoire est dans notre chokhma, mais que la puissance, les muscles, c'est bon pour les goïms. C'est ce que m'a dit quelqu'un dans le cours que j'ai donné sur l'Akba Omer, où j'ai dit que les élèves de Rabbi Akiva ont participé à la guerre de Bar Korva, évidemment, c'est une évidence. Et j'ai expliqué, j'ai donné toutes les preuves à cela, et il m'a répondu, mais enfin, la puissance physique, c'est pas juif. Nous, on a de force que dans notre fila. Il y a eu une fois, juste après mon alia, c'était en plein milieu de la intifada, de la deuxième intifada. Et après un gros attentat qu'il y avait eu, alors a été organisée une grande fila à la Maharat Amarpella à Hebron. Alors, c'était très dangereux à l'époque de faire le chemin pour aller à Maharat Amarpella. Seulement, c'était une fila qui avait été organisée par les grands rabbins d'Israël et tout machin. Donc, il y avait eu des panneaux comme ça, annonciateurs partout, dans tout Jéru, où il y avait marqué, en gros, au début, « En kochenu el abapé ». Notre seule force, c'est la bouche. En d'autres termes, notre philote, notre étude de la Torah. Et donc, il disait là-bas, à cause de la situation terrible, nous n'avons que d'autres solutions que d'aller prier à Maharat Amarpella sur les tombeaux des Avot Akdoshim et tout ça, qui la tfila, c'est ce qui a sauvé le peuple juif. À la fin, il y avait marqué en gros, tout le chemin sera protégé par Tzahal. Et bien, c'est là-bas, t'as tzarik et t'es. Pourquoi tu as besoin que Tzahal te protège si toute ta force, c'est la bouche? Nous, Bémet, la force physique, c'est pas juif. Regarde un peu le Tanakh. Tu vois que les Gdolé Olam, c'était aussi les mecs avec les biceps. En exil, la force physique n'avait plus sa place. Nahon, parce que de toute façon, on était bafoué, persécuté. Mais il est temps de revenir à cela. Et donc, il faut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ou El Goel, Nahon, Aval Chazak, il est capable aussi d'utiliser la force pour faire sortir le peuple juif d'exil. Et donc le peuple juif qui veut l'idamot bemidotav chez la Borée, il ne se suffit plus seulement d'étudier la Torah, il redevient fort. Et ce n'est absolument pas une honte. Au contraire. Au contraire. Il est temps de retrouver non seulement une stature au niveau Torah, au niveau spirituel, mais il faut la retrouver également, évidemment, au niveau physique. Kiel goel chazak ata. Et la reine, on peut te dire, Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem quoi? Goel Israël. Vous vous rappelez quand on avait dit, au tout début, avant de commencer la Shemona Esrei, qu'on ne peut pas commencer la Hamida si on n'a pas d'abord dit Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Et qu'on avait dit, bah, c'est Gaal Israël, c'est son métier. ou à Goël chez Israël. Lorsqu'on dit ici, Baruch Ata Hashem, Goël Israël, eh bien, on dit que c'est une Geoula matmedet. Que c'est une Geoula, que Dieu, il, non seulement c'est son boulot, mais il le fait tout le temps. Ou Goël est Israël, tout le temps. Ça peut être des tsarot, des problèmes personnels qu'on a avec nos voisins non-juifs, mais ça peut être également, évidemment, la Geoula globale. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qui me fasse la Geoula de mes problèmes personnels, tout le temps, à chaque instant? Je peux le comprendre. Mais la Geoula, Geoula, c'est pas tout le temps. C'est qu'à des moments particuliers. Eh bien, lorsque tu dis, Baruch Ata Hashem, Goel, Israël, tu te rends compte que même les moments où tu ne pensais pas qu'il s'agissait de Geoula, où tu croyais qu'il ne s'agissait que de Stam, eh bien non, en fait, c'était Geoula. Qu'en fait, Akadosh Baruch Hu était en train de tisser la trame de la Geoula, et toi, tu ne le voyais même pas à ce moment-là. Et donc, cette bracha, elle se termine en disant, Baruch Ata Hashem, Goel, Israël, Ani Odea, je sais que tu es Goel et Israël tout le temps, à chaque instant. Et c'est ça qui me permet de traverser les épreuves. Je dis, je fais référence à la Geoula Shlema, bien que ce ne soit pas la bracha de la Geoula, pour avoir cet espoir que même mes problèmes personnels, eh bien, je vais les passer. Puisque je sais que Akadosh Baruch Hu va faire passer le peuple juif son grand problème de l'exil, eh bien, ça me donne de la force et du courage de me dire que Akadosh Baruch Hu va aussi m'aider à traverser mes problèmes personnels au quotidien. Une fois que j'ai demandé que Dieu me sauve de mes problèmes face à mes ennemis extérieurs, face à mes relations avec les goïms, eh bien, la Amida se tourne vers un autre problème qui peut arriver, mais cette fois qui ne dépend pas de mes ennemis, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui est un problème intérieur qui est en train de m'attaquer sans répit, moi ainsi que tous les autres êtres humains. Et je vais demander à Dieu qu'il me règle ce problème-là. Ce problème-là, on verra ce que c'est. La semaine prochaine. À bientôt, les amis.